Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Du coup, c'est pratique avec les introductions, c'est qu'il n'y a pas à réenchaîner. Je vais tout de suite pouvoir démarrer en vous remerciant d'abord quand même de votre présence malgré les diverses circonstances et en remerciant aussi l'invitation de Jean-François Brochec à la participation aux conférences UTLC. Raphaël, pour avoir accepté d'animer la session et la préparation aussi commune qu'on a eue de cette conférence. Et en remerciant le monsieur qui m'a pas dit son nom, mais qui a un pull rouge et qui est là-haut à la régie, enfin qui a enlevé son pull rouge, et qui va essayer de me capter en faisant attention à ce que je quitte pas les 2 ou 3 mètres réglementaires que j'ai de mouvement autorisé. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer cette conférence avec un angle donc qu'on m'avait donné, hein, qui était les algorithmes et les traces aujourd'hui. Et évidemment, j'ai travaillé ça à travers les enquêtes de terrain et la spécialité qui est la mienne, à savoir les sciences de l'information et de la communication, et plus précisément les pratiques d'information et de communication des adolescents, adolescentes et jeunes adultes. Alors, je me suis dit, en fait, enfin, c'est la particularité aussi des recherches en sciences de l'info et de la com, c'est qu'elles sont ancrées dans les questions vives, de la société contemporaine. Et je me suis dit qu'il fallait donc démarrer par un élément de contexte. Et j'en ai pris plusieurs. Alors, le premier élément, c'est qu'on peut véritablement aujourd'hui parler d'un contexte de panique, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire de panique morale médiatique, qui sont un ensemble de fantasmes et de mythes que l'on développe autour d'un sujet. Et en anthropologie, on se rend compte que les paniques morales vont être d'autant plus importantes quand l'innovation concerne un public considéré par la société comme fragile. Deux publics sont considérés comme fragiles. En tout cas, c'est ce qu'on remarque en anthropologie. Le premier, ce sont les femmes. Et donc, les paniques morales sont très importantes lorsqu'une innovation vient bouleverser le rapport au temps et aux autres des femmes dans la société. Exemple, l'arrivée de tous les objets d'électroménager, en fait, hein, qui ont créé une véritable panique morale dans la société sur la libération du temps de la femme. Et l'autre population, vous l'aurez deviné, les jeunes, les enfants et les jeunes tout particulièrement. Un contexte de panique qu'on voit particulièrement aujourd'hui avec l'irruption dans nos vies quotidiennes d'un accès à l'information qui finalement dépasse tous les cadres spatio-temporels auxquels on est habitué. Un contexte de panique aussi parce qu'on parle beaucoup de ces jeunes qui sont nés avec le numérique, comme on dit. On les appelle très souvent les digital natives. Aujourd'hui, maintenant, on parle de millennials. Bref, des formules qui permettent en fait de faire un tout homogène de quelque chose qui n'a rien d'homogène. Et surtout, ça enclenche de grandes paniques, à tel point qu'on dit aussi de très grosses bêtises à ce sujet. Et notamment, certains et certaines vont jusqu'à comment dire, s'ériger expert d'un tel sujet en brandissant des notions ineptes telles que celle de l'autisme virtuel. Vous avez là devant les yeux une captation d'écran de l'émission sur France 2 Envoyé spécial en 2018 où le docteur Anis Dukanda avait parlé d'autisme virtuel et ça a été un mouvement qui a véritablement créé une panique parentale à tel point que certains parents ont imputé à leurs enfants, enfin plutôt aux écrans, les troubles comportementaux de leurs enfants, négligeant complètement ce qu'était véritablement l'autisme en termes médicaux. Une autre panique morale qui est liée, hein, c'est l'idée que ces jeunes sont agressifs, violents et peu conscients de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et les réseaux en général, et finalement deviennent une espèce un peu étrangère par rapport à la nôtre, entre guillemets. Et enfin, la fiction fait état de ces mythes et de ces fantasmes. Vous avez là le personnage de l'adolescente dans la série Years and Years, qui est une série d'anticipations, si vous ne l'avez pas vue vraiment.
patrie.
Donc, si vous connaissez, alors comme ça pour la coupe, on va le refaire. Donc, si vous connaissez pas la série Years and Years, c'est une série d'anticipation qui est sortie il y a pas très très longtemps et qui en fait présente un monde mais qui est pas très très lointain, qui est dans en gros 10 ans, je crois, enfin je sais plus trop, mais qui est en fait d'une justesse absolue et qui montre notamment les dérives. Finalement, on va faire un appel à la déconnexion. Donc, je reprends. Donc, série d'anticipation qui, notamment, montre les dérives d'une société capitaliste, d'une société de surveillance, d'une société de peur aussi en termes politiques, hein, et donc qui est aussi très proche hein, des années Trump en réalité, hein, c'est un petit peu l'idée. Et dans Years and Years, vous avez aussi ce personnage de l'adolescente qui, en fait, devient son avatar Snapchat. Vous savez, les petites oreilles là que vous avez, c'est ce que vous pouvez mettre, hein, ce sont les filtres hein, en gros que vous pouvez ajouter aux photos sur les réseaux sociaux, que les jeunes ajoutent, sauf que là, en fait, dans la vraie vie, elle porte, quand elle le désire évidemment, ses différents avatars de Snapchat, ce qui lui permet de jouer avec ses identités. Mais ça crée aussi une véritable, ça a un lien avec la véritable panique dans le sens où on est là face à une jeune qui du coup ne communique plus de la même manière avec ses parents, qui du coup est coupée d'un mode d'interaction traditionnel avec dès lors un fantasme derrière hein, qui est celui d'une coupure générationnelle et d'une rupture anthropologique. On ne serait plus les mêmes humains aujourd'hui et ils ne seront plus les mêmes humains, ils ne seraient plus les mêmes futurs humains que nous. À leur sujet, au sujet de ces jeunes et de leur rapport aux algorithmes et aux traces, puisque c'est vraiment sur cette question-là qu'on va se concentrer aujourd'hui, on dit beaucoup de choses très très sombres, hein, le fait qu'ils sont extrêmement soumis au système, qu'ils s'exposent sans réfléchir, etc., sont des phrases que l'on entend extrêmement souvent et qui font partie d'un ensemble de discours qui relèvent donc de ce qu'on appelle les paniques morales, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément d'éléments scientifiques pour justifier ces affirmations, mais que ces affirmations circulent et du coup imprègnent les imaginaires collectifs, qu'on en ait ou non l'expérience réelle. Illustration d'une violence ordinaire, c'est le troisième cadrage qui me paraissait intéressant de vous présenter en introduction. On est là en fait sur des sites, tout ce qu'il y a de très bien en termes de fiabilité, je suis sur un blog du Monde, et un journaliste explique ce que les adolescents font selon lui sur Snapchat. Je dis selon lui parce que la rigueur de la démarche méthodologique est pas... Voilà, et pas extrême. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ces articles-là, c'est pas l'article lui-même, bien sûr, mais c'est les commentaires. Commentaires d'adultes, soyons très clairs. Et quand on va sur les commentaires d'adultes, ce qu'on lit interroge. Je me priverai de commentaires supplémentaires. Ce qu'on lit interroge. Voilà ce que l'on dit. Alors, on passera aussi sur les fautes de langue, hein, puisqu'on passe notre temps à dire que les jeunes ne savent plus écrire. Les adultes sur Internet font des commentaires avec une maîtrise de la langue quelque peu insuffisante, comme on dit dans le socle commun des connaissances aujourd'hui. Plus récemment, hein, il y a un an, Rue 89 publiait un article sur du virtuel au réel, qui était vraiment intéressant, hein, dans lequel ils avaient pour le coup interrogé aussi des vrais chercheurs qui avaient travaillé sur la question, et où on montrait en fait que les adolescents, quand ils ont des relations virtuelles, quand ils créent des liens virtuels, il y a très vite une envie de passer à une relation IRL, comme ils disent, dans la vraie vie, d'accord, donc physique entre guillemets, donc de se rencontrer véritablement. Sauf que en fait, autour de ces rencontres avec des personnes qu'ils ont appris à connaître en ligne, se passe un phénomène médiatique, c'est que ces jeunes filment leurs retrouvailles, ou plutôt leurs rencontres. Autrement dit, parce que pour les gens pour qui c'est un peu abstrait, je peux comprendre, je vais expliquer. Autrement dit, moi, par exemple, j'avais un jeune qui me l'avait raconté. Reynald avait rencontré des jeunes avec lesquels il avait des liens depuis longtemps à distance, dans la vraie vie. Donc après, il les a rencontrés et en fait, ils ont filmé leur rencontre sur le quai de la gare. Alors ça peut vous paraître stupide, etc., etc. Il n'empêche que c'est un format médiatique qu'ils mettent en place, avec derrière une musique, avec derrière tout aussi un emprunt aux séries, aux films romantiques, notamment pour les filles, par exemple, qui se filment sur exactement comme Tom, enfin non, l'autre, Hugh Grant. Tom Hanks, comme Hugh Grant le fait dans un autre film, etc. Donc il y a toujours une façon de singer, entre guillemets, des films, des retrouvailles, et ils se filment comme ça, le mettent en public sur les réseaux, et ça leur permet de témoigner du passage du virtuel au réel, ce passage étant témoigné à nouveau sur un espace en ligne. Phénomène intéressant, sociologiquement, qu'on avait trouvé en tout cas intéressant d'étudier. Et les commentaires l'étaient beaucoup, enfin, ils étaient tout autant, bien que beaucoup moins gentils. Je me languis d'avoir 14 ans, je vais kiffer grave la life, comme nié 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 mouvant. Voilà, et je lis même pas le dernier commentaire tellement il est insultant pour la fille, pour les filles d'ailleurs, il n'y avait pas que des filles qui témoignaient. Donc voilà. Et de la même manière, on va parfois avoir aussi sur des sites, à l'occasion de certains ouvrages, notamment un dernier ouvrage appelant les enfants d'aujourd'hui des crétins digitaux. À propos de cet ouvrage, sur un site, les commentaires citent Claude Chabrol avec une phrase, donc voilà, la bêtise est infiniment plus fascinante que l'intelligence plus profonde, en parlant donc des crétins, donc des enfants et des adolescents d'aujourd'hui. Et il faut savoir que la source, c'est Babelio, qui est un réseau de professionnels sur lesquels s'expriment beaucoup de professionnels du livre et de l'information, et notamment aussi des enseignants. Bon. Alors là, soit on sort, soit on va déprimer, soit on se dit qu'il y a des solutions. Et soit surtout, on se dit qu'il y a une solution à ces paniques, qui est d'abord d'aller voir concrètement ce qui se fait dans la société, sans être non plus dans le monde des bisounours, sans être non plus dans une espèce de mythification, de fascination aussi du jeune érigé en figure, qui serait une figure de référence sur laquelle il faudrait absolument ne rien dire. Mais scientifiquement, notre rôle à nous, c'est quand même d'aller voir sur le terrain ce qui se passe et ce que ces objets font aux pratiques et aux relations entre les individus. De façon évidente, ils grandissent dans un monde d'algorithmes. Ça, vous grandissez, vous continuez à mûrir, on va dire, dans ce monde d'algorithmes. Il n'y a pas de raison que eux ne le fassent pas aussi. Et de fait, il y a tout un contexte aujourd'hui de médiatisation de ces algorithmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus au courant de ce qui se passe et de comment les données circulent dans la société. À tel point qu'on a d'ailleurs des grandes phrases de référence, la nouvelle norme sociale selon Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, c'est que tout est public. Dans ce contexte de big data, il y a un match qui se joue clairement entre Mark Zuckerberg et tout ce qu'il représente, bien sûr. Donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ainsi que l'ensemble, de toute façon, faut pas non plus, l'ensemble des industries qui gèrent des données personnelles. Donc un match qui se joue entre tous ces éléments-là et les données à caractère personnel des individus. De fait, ça fait longtemps que des chercheurs, notamment en sciences de l'information et de la communication, explique que l'homme est devenu un document comme les autres, c'est-à-dire que, bien sûr, sur vous, sur chacun de nous, en fait, on peut reconstituer ou constituer plusieurs documents, plusieurs ensembles de données que vous ayez volontairement ou non d'ailleurs laissés sur les réseaux, permettent de créer, recréer une fiche d'identité. La question est-elle véritablement fidèle à vous? Peut-il y en avoir plusieurs? Est-elle évolutive? Etc., etc. On y reviendra. Mais de fait, ça fait longtemps qu'on étudie ces questions-là et qu'on a conscience de l'impact de ce contexte. Un juriste américain, Lawrence Lessig, disait « God is law », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand régulateur de notre existence, le grand régisseur de notre existence, c'est le code. Il allait jusqu'à, enfin, nous prévenir très très vite des limites et des freins aux libertés individuelles et collectives que pouvait constituer justement cette présence énorme du code dans nos vies et des algorithmes et des données qui circulaient et échappaient aussi à l'individu. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a beaucoup de discours sur, bien sûr, les phénomènes de surveillance qui sont mis en place à travers ce que certains ont notamment appelé un technocapitalisme, évoquant les dérives qui, évidemment, aujourd'hui, nous sont, à nous, adultes, connues, notamment le fait que bah, quand vous créez un compte Facebook, vous le faites en conscience et vous savez très bien que bah oui, vos données, elles ne vous appartiennent plus et que oui, vos images, elles circuleront et que vous n'avez pas à en vouloir à Facebook d'appliquer tout simplement ces conditions générales d'utilisation que vous avez gentiment acceptées. Et ça, on ne peut pas reprocher à la firme cette utilisation, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher dans le sens où le contrat qu'elle a passé avec nous est clair. De fait. Ça ne veut pas dire qu'après on est d'accord avec la façon dont elle procède. Ça, on y reviendra après, c'est autre chose. D'autres chercheurs, philosophes en l'occurrence pour Éric Sadin, parlent d'un régime de la séduction, expliquant que, ben, effectivement, le fait que nos vies soient ainsi numérisées, que les données soient collectées, que cette surveillance soit aussi utilisée au nom de la protection des individus, tout ça vient nous séduire. Et d'ailleurs, on a des entreprises comme celle-ci, alors là, vous voyez pas grand-chose de là où vous êtes, je pense, mais vous taperez Société Belge et Puce Électronique, dans YouTube, et vous tomberez sur plusieurs reportages qui ont été faits d'une société donc belge qui a proposé et pas imposé, à ses employés adultes, entre 30 et 50 ans tous, je réinsiste, entre 30 et 50 ans, elle leur a proposé de se faire implanter sous la main une puce électronique qui permet donc en termes de badge hein, d'ouvrir les portes, de badger aussi leur arrivée, enfin l'ouverture de leur session ordinateur, ça leur sert de carte de cantine, de carte de parking, etc. Ils ont dit oui. Une très grande majorité des employés de cette société belge ont dit oui. Et quand vous regardez le reportage, ils disent combien c'est génial. C'est trop bien, ça facilite la vie, c'est sous la peau, on l'oublie, etc. Donc ce régime de séduction fonctionne. Et finalement, on n'est pas là encore avec des jeunes. On est pour le moment dans le monde des adultes, dans le monde du travail, avec un technocapitalisme qui finalement s'étend et est presque naturalisé, dans le sens banalisé, entrant dans nos pratiques et nos réflexions presque communes. Alors, du coup, ces adolescents, comment ils font aujourd'hui? Alors d'abord, c'est quoi être adolescent aujourd'hui? Eh bien, je vais vous annoncer un scoop, c'est qu'être adolescent aujourd'hui, c'est toujours être adolescent. C'est-à-dire qu'en fait, les caractéristiques de l'adolescence et de ce que Olivier Galland, qui est un sociologue spécialiste de l'adolescence, appelle la culture juvénile, ces caractéristiques-là, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé depuis que la sociologie de l'adolescence existe et fixe et étudie les cadres et les pratiques adolescentes. Concrètement, un adolescent... Enfin, l'adolescence, plutôt, la période elle-même, se caractérise par un renforcement de l'autonomie, qui n'est pas l'indépendance, hein, vous l'aurez deviné, ce n'est pas l'indépendance financière, mais une forme d'autonomie par rapport, évidemment, souvent à la sphère familiale. Concrètement aussi, c'est une aspiration à l'entre-soi qui caractérise l'adolescence. C'était vrai il y a 50 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui, avec un hiatus entre le groupe de pairs, P-A-I-R-S, et le groupe de pairs, selon les jeux de mots des sociologues de la culture, qui font de sacrés jeux de mots, le groupe de pairs, P-E-R-E-S. C'est aussi une consommation culturelle soutenue qui concerne, qui caractérise l'adolescence. Et là, sur ça, il faut peut-être s'arrêter un peu. Consommation culturelle soutenue, c'est-à-dire que les plus grands consommateurs de produits culturels, de propositions culturelles, ce sont les adolescents. Et même encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils lisent, ils écoutent de la musique, et que l'écoute de la musique, par exemple, est aussi une pratique culturelle. Et que avant, c'était des grands consommateurs aussi hein, d'écoute musicale sur CD, etc. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, sauf qu'évidemment, les supports ont quelque peu changé. En réalité, on est sur une mutation des supports et des modalités, mais pas sur une mutation de la pratique en elle-même et de surtout ce qu'elle signifie dans la vie de l'individu. C'est aussi une adhésion à un univers de référence qui est relativement homogénéisé. Alors je dis relativement parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les pratiques culturelles, elles sont liées bien sûr aux sphères socio-économiques, géographiques hein, que tout le monde fréquente. Mais de façon générale, c'est presque à l'adolescence qu'en fait les pratiques culturelles se rejoignent le plus, quels que soient les niveaux sociaux. Parce que justement, il y a un élément essentiel qui fait cohésion, ce sont les industries culturelles. Autrement dit, alors moi je fais toujours le test avec mes étudiants dans l'année au fur et à mesure, des fois je leur balance des noms de séries ou de groupes de musique, etc. Et puis comme ça on arrive à identifier, ah, plutôt les années 80, ah là, on est avec des gens de 90, ah là, etc. Si je vous dis le miel et les abeilles, si je vous dis Hélène et les garçons, j'en vois quelques-unes là qui commencent voilà, à faire, ouais, voilà, voilà. Et là, pourquoi ? Parce que quelles que soient nos références, qu'on ait aimé ou pas, qu'on ait regardé ou pas, qu'on ait été ou pas des fans, hein, ou quel que soit notre milieu social, on a vécu, alors à condition d'avoir vécu dans le même environnement géographique quand même, hein, parce que c'est quand même culturellement marqué aussi en termes d'ère culturelle, hein, bien sûr, mais on a les mêmes références en termes d'industrie culturelle. C'est toujours vrai aujourd'hui pour les adolescents. Les youtubeurs, par exemple, que eux connaissent et aiment, ne sont pas les mêmes que ceux que les trentenaires ou les cinquantenaires, car il y a beaucoup de cinquantenaires qui aiment les youtubeurs, vont aimer. Et c'est normal. C'est tout à fait normal, en fait. Hein. Dernière chose, évidemment, la caractéristique de l'adolescence essentielle, ben, c'est l'affirmation de l'identité. Et ça passe aussi, et là, vous allez voir, bien sûr, le lien avec les algorithmes et les traces après, par la résistance à la tyrannie de la majorité. Alors, la tyrannie de la majorité, c'est un concept qui nous vient de Hannah Arendt, qui avait expliqué combien l'enfance était... je suis perturbée par les gens qui arrivent. Combien l'enfance était, en fait... Enfin, combien les enfants étaient un groupe culturel puissant, agissant aussi comme un groupe dominant, et comme un groupe pouvant persécuter les autres. Ça, c'était Hannah Arendt qui disait ça. Donc, vous voyez, Hannah Arendt, elle n'étudiait pas les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a une sociologue qui s'appelle Dominique Pasquier, qui, elle, maintenant, étudie les réseaux sociaux aussi. Et Dominique Pasquier, dans les années 90, elle a repris, en fait, le concept de tyrannie de la majorité pour montrer combien, dans les lycées, les modes vestimentaires, mais aussi les choix d'expression orale, et donc les comportements aussi dans les interactions entre jeunes et entre jeunes et adultes, étaient profondément conduits par ce concept de tyrannie de la majorité. Il est difficile, quand on est adolescent, de ne pas entrer dans la danse, quelque part. Hein ? Et ça, c'est vraiment important, on va y revenir. Justement, ce que le numérique fait du coup aux pratiques adolescentes, sous l'angle des traces et des algorithmes, c'est de permettre de se connaître et de se reconnaître. C'est vraiment essentiel de voir que, à travers ce lien social que les adolescents cherchent à tisser entre eux, c'est en fait une quête d'eux-mêmes qui est entreprise. La sociologue suisse Claire Balèze étudie grandement cette question-là à travers un livre sorti en même temps d'ailleurs que Grandir connecté et qui s'appelait Grandir entre adolescents. Et on s'était pas consulté, c'était rigolo. Et en fait, elle montre très bien comment ces adolescents cherchent à se construire à travers l'image qu'ils renvoient aux autres et testent aussi des formes de jeu identitaire pour pouvoir déterminer l'identité finalement qu'ils vont choisir, on va dire, pour le moment. Les réseaux, c'est donc de fait un support d'affirmation des identités. Et puis, il faut avoir en tête le concept d'assiduité numérique, c'est-à-dire que on sait que l'investissement temporel dans les activités recourant aux équipements numériques est très important à l'adolescence. C'est pas un scoop pour vous, mais j'ai bien parlé d'activités recourant au numérique, c'est-à-dire qu'on n'est pas là face à des êtres passifs. Ils font quelque chose, ils disent, ils pensent, ils exercent une pensée critique, ils exercent un discours, ils exercent aussi leur propre rapport au monde à travers ces réseaux. Donc on n'est pas sur un rapport passif, alangui sur un canapé face aux écrans. Ça, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, la sociologue du département de la culture, non, la sociologue tout court, Anne Barrère, pardon, explique, et c'est prouvé aussi par les travaux de Sylvie Octobre, qui est sociologue au département de la culture, elles expliquent toutes les deux que les plus actifs dans les activités numériques sont en fait aussi ceux qui sont le plus engagés dans d'autres activités. C'est un peu contre-intuitif, en fait, dans le discours des adultes, en tout cas. En fait, c'est quelque chose qu'on voit parfaitement chez les adultes. C'est-à-dire que les travaux... Alors, ce qui est intéressant pour le département de la culture, c'est qu'ils suivent des gens, et puis ils font tous les deux ans de très, très grosses études avec des énormes échantillons. Et vous avez un sociologue, Olivier Donat, qui, lui, étudie plutôt les adultes, on va dire. Et puis, vous avez Sylvie Octobre, qui, elle, est plutôt du côté, quand même, souvent, des plus jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tendances identiques, quel que soit l'âge. Et cette tendance de ceux qui sont les plus actifs sur les réseaux sont aussi ceux qui sont les plus actifs en termes d'activités culturelles, sorties, cinéma, concerts, médiathèques, donc emprunts de livres, etc. Eh bien, sont les mêmes. Et ça, ça marche chez les adultes et ça marche aussi chez les jeunes. Donc non, ils ne sont pas que en train de faire du Fortnite, comme on dit, quand ils sont sur les réseaux, on va y revenir. Donc ça, c'est quand même une donnée importante. Alors du coup, finalement, ce serait bien qu'on les prenne au sérieux, qu'on sorte des paniques morales et puis qu'on se dise, bon, ces adolescents, ces adolescentes, qui sont-ils réellement ? Ce ne sont pas que des chiffres, ce ne sont pas non plus que des êtres qui nous échappent et vont revenir dans le monde adulte et être d'un coup reconsidérés. Comme s'ils étaient importants, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a tendance à trouver... Un petit bébé est toujours très intéressant, toujours intelligent, hyper développé, il a plein de compétences et de capacités, il va toujours être surdoué. Après, il devient bête parce qu'il devient ado, donc il ne devient pas intéressant, coupé du monde, il n'a pas de capacité, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. Puis après, il devient adulte, et donc là, il peut se permettre de dire que les plus jeunes sont bêtes. Et on a un rapport à l'âge qui est quand même aussi très particulier. Et donc l'idée, là, ce serait juste de les prendre au sérieux, là encore une fois, sans diabolisation ni... fantasme positif, et de dépasser trois éléments principaux. Le premier, quand on parle des écrans, c'est dépasser l'approche par les temps d'exposition. Vous savez, on dit, ah ouais, on parle de surexposition aux écrans. Ben, ça ne veut rien dire, en fait, parce qu'on n'est pas exposé aux écrans. On est exposé aux ondes. On est exposé au soleil. On est un panneau solaire éventuellement quand on est exposé, mais un enfant, ce n'est pas un panneau solaire devant un écran. Concrètement, face à un écran, il agit, il pense, il bouge, il parle, il échange. Et donc cette notion d'exposition aux écrans n'a pas beaucoup de sens. Surtout que le temps d'exposition ne veut rien dire. Ça dépend ce qu'il y fait. Donc ce qu'on propose bien sûr, c'est de dépasser les temps d'exposition par la question et de la dépasser en posant véritablement la question des usages. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se fait pendant ce temps consacré à une activité numérique. On propose aussi de dépasser les idées reçues, qui commencent toujours comme le personnage de Masha dans Tchekhov, à la jeunesse. Vous savez, il y a une pièce de Tchekhov qui s'appelle La Mouette, et le personnage de Masha, quand elle entre, en fait, et oui, j'ai de la culture en plus, ça se voit pas, mais oui, j'ai une collègue qui fait bon. Donc voilà. Et en fait, quand elle entre dans la pièce, elle dit ah, la jeunesse. Et s'ensuit toute une tirade sur cette jeunesse inconséquente. Tchekhov. D'accord ? Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on retrouve aujourd'hui la même chose. En parlant à leur place, en plaquant nos points de vue d'adultes et nos expériences d'adultes d'aujourd'hui, sur des gens qui sont dans une phase de construction identitaire, d'affirmation d'identité, avec des industries culturelles de référence et des modes de communication forcément différents des nôtres. Ce qui n'est pas grave. Ce qui est étranger n'est pas forcément une étrangeté à bannir, en fait. Hein. C'est bien la différence qu'on propose. Et donc dépasser en passant par une approche compréhensive, donc tenter de comprendre tout simplement leur point de vue. Et donc dépasser du coup les paniques morales et d'aller objectiver scientifiquement les choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on constate véritablement, quels sont véritablement les risques. Et là, toutes les disciplines scientifiques, avec leurs différents points de vue, peuvent s'allier, et devraient s'allier d'ailleurs, pour pouvoir éclairer qui en neurosciences, qui en imagerie cérébrale, qui en psychologie, qui en sciences de l'info, qui en sociologie. Je fais exprès de citer plusieurs disciplines. Tous ces gens-là devraient pouvoir s'allier pour porter un regard véritablement complexe, parce que en fonction de notre discipline, nous ne pouvons pas objectiver les mêmes éléments et nous ne pouvons pas, entre guillemets, déconstruire ou détruire les mêmes paniques morales, de fait. Alors, pour le faire, moi, de mon petit regard à moi, c'est du modeste, hein, mais au moins, voilà, je propose une approche sociale de l'information et des médias, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans le « il devrait faire, ça devrait se passer comme ça », et puis d'aller voir et de me dire, bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Ça passe par de l'immersion, du terrain, auprès des jeunes, auprès des adolescents et des adolescentes, auprès de leurs familles, auprès de leurs enseignants aussi, parfois, puisque souvent, enfin, parfois, les enquêtes ont lieu dans les classes aussi. Et puis, ça passe par l'entrée, par la quotidienneté. Vous allez entendre, dans la suite de la conférence, des jeunes qui vont là s'exprimer sur leur rapport aux traces, aux algorithmes. En tout, depuis 2000... j'enlève la partie de la thèse parce que ça compte pas, la thèse, comme recherche. Pour moi, ça compte pas parce que c'est pas... Elle était pas, voilà. Donc on passe pour la thèse, mais prenons depuis 2012. Depuis 2012, c'est à peu près 300 jeunes que j'ai suivis à travers des enquêtes. Et quand je parle de suivi, je parle de à minima une année scolaire complète. D'accord ? Ça veut dire qu'au moins une fois par semaine, je les ai vus. Je me suis entretenue avec eux de façon proche, du coup, et parfois très proche, puisque parmi tous ces jeunes, il y en a aussi... Alors, ils ont, en gros, hein, ils ont toujours eu entre 11 et 18 ans. C'était toujours des années collège ou lycée. Et parmi tous ces jeunes, il y en a 15 qui ont un privilège supplémentaire. C'est plutôt moi qui ai le privilège, en fait, pour être tout à fait honnête. Depuis 2012, il y en a 15 que je suis, en fait, de façon extrêmement intime. Il n'y a pas d'autre mot, puisque depuis 2012, en fait, on échange très, très régulièrement. On a mis en place ensemble des protocoles de recherche particuliers où ils me confient les évolutions de leur rapport aux médias, à l'information. Je connais leurs parents, on a fait des entretiens dans les familles, on a fait des entretiens en immersion dans des lieux aussi que eux-mêmes ont choisi comme étant, selon eux, symbolique de leur rapport à l'information. Donc ils m'ont emmené dans des bibliothèques, dans des CDI, dans des cinémas, dans des espaces ressources médiatiques, dans des espaces de ressources numériques, pardon, dans les quartiers, dans les cités. Ils m'ont emmené dans des cafés culturels, enfin voilà. Et donc depuis 2012, vous imaginez bien que ces 15-là, forcément, ils ont grandi. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est, et vous allez le voir à travers notamment le rapport aux traces, combien c'est essentiel, c'est le rapport au temps. Quand on parle de temps d'exposition, mais moi je voudrais parler de temps des pratiques et du temps long des usages d'information et de communication. Et donc vous allez les entendre pour certains en vrai, c'est-à-dire que vous allez avoir des extraits audio, et donc parce que certains, puisque je les suis depuis longtemps, ont donné l'autorisation à ce que leur voix soit diffusée. Néanmoins, je vous précise qu'ils ont donné le droit de diffusion dans cette salle, mais pas sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous demande de tenir compte de ce contrat de confiance au-delà du respect de la voix comme données personnelles. Je vous demande simplement de respecter le contrat de confiance que moi, en tant que chercheuse, je passe et j'ai passé avec eux. Et donc, de ne pas diffuser les extraits audio que vous allez entendre. Je vous assure que je le dis parce que ça m'arrive 3 fois sur 4 de retrouver les extraits et c'est très problématique. Alors, quand on les interroge, et je ne parle pas là uniquement des 15, hein, je parle bien de l'ensemble, on se retrouve avec des tacticiens qui agissent dans un tourbillon de données. Alors, pourquoi des tacticiens? Parce que en anthropologie de la culture, on parle de stratège et de tacticien. On dit que le stratège, c'est celui qui organise l'espace, un peu comme en guerre, dans la guerre. Vous avez celui qui définit l'espace et les stratégies, qui définit les rapports souvent de domination, du coup, hein, et puis ce qui va être autorisé ou non. Et puis on a le tacticien qui s'immisce dans ce système et qui va essayer évidemment d'y trouver des niches de liberté. des moyens d'expression et généralement de contourner la règle, mais aussi de trouver des moyens, au-delà de l'expression, hein, de domination, voire de renversement du pouvoir établi. C'est important de parler tacticiens, me semble-t-il, parce qu'ils font tous avec un modèle dominant. Vous faites aussi avec un modèle dominant aujourd'hui, quelles que soient nos convictions, malheureusement j'aurais tendance à dire, nous sommes dans un contexte de big data et où, de fait, les GAFAM ont quand même, et le contexte de surveillance généralisée, ont quand même beaucoup plus de pouvoir que tous les éléments de contre-culture que l'on peut connaître et sur lesquels on va revenir. Ils ont parfaitement conscience, en fait, de ce modèle économique dominant. Ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Cette opacité des algorithmes, hein, ils en parlent très clairement. Laura a 11 ans. Elle dit, tout le monde, il peut voir ce qu'on y fait, vu qu'on laisse des traces. On peut voir ce qu'on y a fait il y a même plusieurs jours. Plusieurs jours, quand on a 11 ans, c'est l'éternité. Parce que des fois, ça peut surprendre, mais pour elle, ça veut dire que c'est énorme. Plusieurs jours, voilà. Et elle dit, c'est un vrai danger parce qu'on s'en rend pas compte quand on y est. Donc elle a conscience qu'il se passe un truc. De là à savoir ce que c'est, elle ne sait pas. D'ailleurs, Delphine, 16 ans, elle me dit, moi, sur mon ordi, je sais pas comment ça se fait, mais... Et là, elle me raconte, en fait, quand je suis sur mon ordinateur, c'est bizarre, tu sais, j'ai regardé un truc sur mon téléphone, et puis d'un coup, en fait, il me propose la même chose, mais sur mon ordi. Et en fait, Delphine, elle comprend pas. Comment ça fonctionne et comment ça circule. Et du coup, tout ça lui paraît extrêmement mystérieux, sauf que vous prenez difficilement le pouvoir sur quelque chose quand vous ne comprenez pas les ressorts, évidemment, du système. Et ça donne souvent lieu, du coup, à des discours assez fascinés. C'est génial. On ne sait pas ce qui se passe, mais du coup, c'est génial. Il y a un côté magique. Hein. C'est aussi une banalisation de l'enregistrement des traces qu'on voit à travers leur discours, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas comment faire autrement en réalité. Et donc le titre de la conférence m'avait été inspiré de Morgane, qui quand il avait 17 ans et que je lui avais dit « enfin quand même, ça ne te gêne pas ?» J'avais un peu bousculé, ça, il fait partie des 15 hein, que je suis. Et je lui avais dit « mais tu dirais quoi à quelqu'un qui dit « oui, mais bon, tu cherches ton problème quand même en faisant ça, tu vas sur ces sites-là, tu sais très bien que tu vas être suivi, qu'il va y avoir des traces, qu'on va les utiliser ?» Et il m'avait dit, mais moi, celui qui me dit ça, je lui dis, hey mec, tu vis dans le monde ou pas? Et en fait, cette remarque, elle nous fait rire parce qu'en fait, on se dit, en même temps, il n'a pas complètement tort en réalité. Et d'ailleurs, quand on les interroge, on voit que souvent la fin, c'est-à-dire l'accès à l'information, justifie les moyens, c'est-à-dire le traçage. Vous allez entendre Anaïs, qui a 17 ans là quand elle s'exprime, et qui. Vous allez entendre Anaïs, puis vous allez voir ce qu'elle dit.
Il y a deux choses là. Tu as dit que sur YouTube, en fait, on te recommande des vidéos en fonction de ce que tu as vu. Est-ce que ça te gêne, ça, le fait que...
Un petit peu. Bah, c'est bien, parce que ça me permet de voir des bandes annonces, tout ça, mais ça m'embête un peu. Bah, c'est comme les cookies, hein, sur un... Ça me gêne un peu parce que je me dis, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche. Et... Ils savent un peu notre profil sans même nous rencontrer. J'ai une base de données, telle personne à tel endroit cherche telle chose, donc elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Si on regarde des vidéos tuto make-up et ça doit être certainement une fille de tel âge et ils doivent, je pense que ils peuvent dresser un profil rien qu'avec nos recherches internet.
Et
c'est ça qui m'embête en fait.
Ça modifie ton comportement du coup en ligne?
Pas vraiment, non. Parce que pas vraiment. Après, c'est sûr que. Comme toujours, je trie l'information, mais non, je pose spécialement attention en fait. J'ai envie de chercher quelque chose, je cherche et puis c'est tout.
Tu sais que éventuellement, ça sera calculé, ça laissera des traces.
Je sais pertinemment de toute façon tout ce qu'on fait laisse des traces.
Voilà, je sais pertinemment, mais comme elle ne va pas s'empêcher d'accéder à l'information, elle continue. D'accord. C'est finalement un raisonnement qui nous paraît, semble-t-il, assez logique, à voir vos expressions. Mais qui évidemment aussi pose question. On voit bien qu'elle ne sait pas expliquer ce qui se passe. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Après, de là à savoir véritablement ce qui se passe, elle ne sait pas. Et en fait, elle ne sait pas non plus contourner éventuellement ce système-là. De la même manière, ce qu'on voit aussi, c'est qu'à travers ce système dominant, on voit aussi se reproduire des distinctions, je reprends volontairement le terme de Pierre Bourdieu, hein, à travers ça, on a souvent tendance à considérer que l'espace numérique n'est pas un espace de distinction sociale. Vous savez, c'est très horizontal, tout le monde fait ce qu'il veut, enfin tout le monde... Voilà. Et en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, eux-mêmes, quand ils s'expriment à ce sujet, nous font comprendre à quel point le rapport aux traces, aux algorithmes et à l'image que l'on laisse de soi est calculé, mais est calculé aussi par eux-mêmes. Alors, vous allez entendre Amélie. Amélie, elle a 20 ans au moment où elle s'exprime. Elle va revenir sur des anciennes années à elle. Vous allez voir, elle fait un aller-retour entre ses anciennes années et les actuelles. Et Amélie, je le précise tout de suite, a un profil d'enquêté un peu particulier. Alors, tous les enquêtés que je suis sont toujours quasiment issus de milieux socio-économiques défavorisés. C'est un choix, voilà, scientifique, assumé, voilà, politique, que je pourrais vous expliquer si vous voulez après, mais voilà. Et donc c'est un public très homogène, du coup. Hein. Amélie, elle a une particularité, c'est qu'elle est issue donc d'un milieu socio-économique défavorisé, elle vient d'un lycée d'ambition réussite, et elle a intégré Sciences Po. Donc Amélie est étudiante à Sciences Po Lille, tout en étant la fille de ses parents et la sœur de sa sœur. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Sa sœur, jumelle, est en bac pro esthétique. Et Amélie, eh ben, elle a besoin aussi d'avoir un terrain commun avec sa sœur et avec ses parents. Et vous allez voir qu'il y a une technique qui lui permet aussi d'être en lien avec sa sœur. Et que cette technique, elle passe, vous allez comprendre, par ce qu'elle appelle le bénéfice des likes et le refus des photos qui coûtent. Alors, traduction tout de suite. Les likes, bon, c'est les pouces sur Facebook, ça doit aller. Par contre, la photo qui coûte, c'est les photos que vous avez un peu comme ça avec la bouche en avant. Je ne fais pas bien les photos qui coûtent. Hein. Ça fait bien quand on a 14-15 ans, après c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et donc vous allez entendre Amélie parler de son rapport à l'image et aux traces qu'elle laisse sur Facebook. Je rappelle, au moment où elle s'exprime, elle est étudiante à Sciences Po Lille.
Ah, ça a quelque chose qui te gêne ?
Ouais, mes photos ça me gêne parce que mes conneries en soirée, j'ai pas trop envie qu'on les voit. Mais surtout que j'en fais beaucoup. Mais
Et du coup, ça change ton comportement par rapport à tes photos, par exemple. T'en fais quoi ?
Mes photos, c'est hyper calculé. Je mets pas n'importe quelle photo. Je mets pas déjà. On calcule tous. On le dit pas, mais on l'assume. Mais on l'assume pas, mais on le fait tous en fonction du nombre de likes potentiels qu'on peut avoir. C'est comme quand on vend un produit sur le marché, on s'attend à des bénéfices. On a des bénéfices anticipés. Bah là, c'est pareil. Les likes, c'est pareil.
Un like, c'est un bénéfice ?
Ouais, quand on a beaucoup de likes, ça veut dire qu'on pèse. Donc du coup.
Et on pèse en quoi ?
On pèse dans le sens où on a beaucoup de potes. On a beaucoup de potes qui aiment ce qu'on fait, entre guillemets, ou la photo qu'on a mis. Si c'est une photo, ça veut dire qu'on est super beau gosse, qu'on a de la classe, voilà. Si c'est une publication, ça veut dire qu'on est super intelligent, que, voilà, que tout le monde est d'accord avec nous, qu'on pèse, quoi. Et si on n'a pas de like, on se prend en vente, on est tout seul. Voilà. Ça veut dire qu'on est tout seul et qu'on sert à rien, on ne sert pas grand-chose.
C'est important, je pense, en toi ?
C'est important pour tout le monde. Ça, clairement, pour moi aussi. Moi, c'est parce que je l'assume clairement. Avec ma soeur, on a même développé une stratégie pour publier les photos de profil. C'est dimanche soir à 19h, parce que tout le monde est sur Facebook à ce moment-là. C'est le dimanche soir, on sait pas quoi faire généralement, on est un peu embêté et tout ça. Parce que moi j'ai bossé dans la journée, donc voilà. Du coup, dimanche soir, 19h, tout le monde est connecté, du coup, c'est là où on met le.
C'est comme l'audience ? C'est-à-dire que tu sais qu'à 19h, il y a de l'audience ?
C'est ça, c'est exactement ça. Je devrais travailler dans les médias, moi en fait. Hein. Et ouais, non, c'est ça. C'est ça.
D'accord. Et du coup, vous mettez cette photo là, vous changez cette photo de profil et vous êtes attentif, du coup, vous restez.
Attends. Moi j'essaie de. Enfin, moi, ma soeur, je sais qu'elle guette beaucoup. Moi j'essaye pas trop parce qu'après je m'impatiente. Donc du coup, je la mets, je fais autre chose. Puis après, j'ai la bonne surprise de voir que j'ai beaucoup de likes. Du coup, je dis ah, c'est cool. Donc voilà, mais sinon, non. Mais je sais que ma soeur elle attend. Elle guette le moindre like, le moindre. Ouais.
Et ça t'est arrivé de pas avoir de likes ? Ou pas autant que tu espérais ?
Au début, quand j'ai commencé à être sur Facebook, parce que j'étais pas des plus populaires, au collège ou au lycée, et en fait c'est vers la terminale que, première, je commençais déjà à en avoir pas mal. Il y avait une ou deux photos où j'avais 170 likes, c'était les plus belles photos de ma vie, alors en fait maintenant je les trouve dégueulasses. Mais bon, et il y a qu'en terminale du coup, en fait j'ai décidé que je m'en foutais, et du coup j'ai publié un peu comme ce que je voulais, et finalement ça a marché quoi. parce qu'il y a toujours un carcan, un type de photo qui fout un peu qui coud, tout ça. Et du coup.
Fout un peu qui coud.
Ouais, fout un peu qui coud, ouais.
Ça, c'est... Avec le geste, ça ouais, vraiment, il y a une manière
en
de faire.
Beaucoup, mais en fait, c'est soit on met des photos qui coud, soit on met des photos super classe avec foutage en arrière-plan, tout ça. Il y avait vraiment plusieurs écoles de photos sur Facebook et ça définit clairement qui on est. Ça, pour le coup, c'est. Ça, je m'en suis rendu compte depuis que j'étais en quatrième. Du coup, je me disais, pas de photos qui coud, c'est mort.
Et pourquoi pas de photo qui coud ?
Et parce que photo qui coud, ça veut dire qu'on écoute du Jul, hein. De la musique de merde, voilà. Ça veut dire qu'on fait des fautes d'orthographe quand on parle, et ça veut dire que bah on, voilà, on n'a pas trop d'avenir, quoi. Enfin, c'est caricatural, mais en gros c'est un peu l'idée, quoi. Alors que photo avec, enfin la photo avec du flou en arrière-plan, machin, ça veut dire que potentiellement on a un peu de culture, parce que là si on travaille de photo, qu'on est quelqu'un de soigné, tout ça. Donc voilà.
De l'intérêt de les laisser parler et de les écouter longuement. Vous voyez le raisonnement qu'elle tient. Qui est effrayant aussi, hein, en termes de tyrannie de la majorité. Alors là, vous avez le panel complet de l'affirmation d'identité, de la pression du groupe, du fait d'avoir de l'audience ou pas, d'être beau, beau gosse, intégré ou pas, populaire, elle emploie le terme, hein. Et vous voyez aussi ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit avec ces photos qui coulent, là. Donc si vous écoutez Jul et que vous écoutez de la musique de merde, comme elle dit, vous faites des fautes d'orthographe. Ce qu'elle dessine à travers ça, c'est un espace social qui n'est absolument pas neutre. Ce qu'elle décrit, c'est l'espace social à la Bourdieu, avec des champs culturels, avec des rapports de domination, avec des pratiques culturelles qui sont attachées à des comportements, qui sont attachés à des formes de pouvoir et de réussite potentielle dans la société. Si je fais une photo qui coud en quatrième, je vais me planter à l'école et c'est mort. Il n'y a pas d'espoir, d'accord ? Que si je floute, ça veut dire que j'ai un peu de culture, vous voyez le lien qui est fait quand même, et que j'ai une chance de réussir derrière. C'est très violent ce qu'elle raconte, mais ce qu'elle raconte, c'est la violence du monde social tel qu'il est. Et le monde numérique n'est pas exempt, en fait, de ces règles, de ces rapports de domination et de violence culturelle et sociale qui existent. Et on voit à quel point ce qu'elle montre aussi, c'est la nécessité de garder la face. Hein, on a un chercheur, Goffman, qui parle de garder la face dans la société, qui explique que, évidemment, la vie, c'est un théâtre social. Moi, je garde la face vis-à-vis de vous. Il faut que j'essaye de, voilà, d'avoir l'air à peu près au point, à peu près sérieuse. Et quand il n'y a plus de son, il faut que je garde la face aussi. Quand on est enseignant, c'est pareil. Voilà. Et puis, eux, entre eux, c'est pareil. Il faut garder la face. Et qu'est-ce qu'elle dit sur cette photo qui avait eu 160 likes ? Ouais, j'étais heureuse, c'était la plus belle photo de ma vie. D'accord ? Parce que ça lui donne aussi une identité et une existence dans l'espace. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que le monde numérique est investi aussi par eux. Mais vous voyez aussi à travers ça à combien la quête de l'entre-soi est bien aussi une quête d'identité et d'affirmation de soi et de ses valeurs. Alors évidemment, on le voit aussi à travers la gestion personnelle des données qu'ils mettent en place. Un journaliste qui s'appelle Jean-Marc Manac avait titré un livre La vie privée, un problème de vieux con. J'avais trouvé le titre intéressant, en demeurant le bouquin n'est pas extraordinaire, mais il était voilà. Mais j'avais trouvé ça intéressant dans la mesure où ça nous obligeait à renverser aussi nos rapports au privé et à la conception de ce que nous on considère comme étant privé et intime. Parce que c'est vraiment cette différence-là qu'il faut faire avec eux et que eux font, c'est cette différence entre le privé et l'intime. Et alors là, il faut s'accrocher parce que des fois, pour nous, c'est pas toujours clair. Contrairement à Josh Fried, faut faire de l'orthophonie là, qui opposait la génération des parents et la génération des transparents, et au nom d'un bon mot, affirmer une ineptie absolue, on est en réalité avec des frontières qui bougent. Les chercheuses en sociologie des médias et en sociologie de la culture, respectivement Dana Boyd et Claire Balèze, montrent toutes les deux combien à travers les interactions sociales entre eux, les adolescents jouent entre eux le privé et l'intime. Un exemple qui peut-être peut vous éclairer, c'est la gestion des conversations sur Facebook. Sur Facebook, un adolescent, ça se fait aussi maintenant chez les adultes, parce que les adultes, au bout d'un moment, ils voient comment ça marche, donc ils le font, mais un peu tard par rapport aux autres. Et donc voilà. Et donc les adolescents commentent, annoncent des choses et tout ça, et les autres réagissent. Donc, ça, c'est le mur Facebook traditionnel. Et puis, il y a un moment où, quelqu'un sur son compte va mettre une information, mais qui en fait est lacunaire, un peu une forme de teasing. On se dit, mais on ne comprend pas tout de ce que ça veut dire, dans quel état il est, voilà, une sorte de suspense. Et là, plein de monde, évidemment, commente en mettant, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, dis-nous, etc. Et à ce moment-là, celui qui a publié le message énigmatique écrit à certains publiquement sur son mur, rendez-vous en MP. Et là, en fait, il signifie publiquement aux autres qu'en fait, il entre dans l'intimité d'une relation avec certains. C'est pour eux, ce que montrent en fait les sociologues à travers les études de terrain qu'elles ont faites, du terrain vraiment concret et tout ça, pour eux, en fait, il est important de signifier au groupe de pairs les différents degrés en fait, de rapport à l'autre et de signifier quand on va passer de ce qui peut être considéré comme privé à ce que eux vont considérer comme intime. Et parfois, nous, ce qui peut nous paraître, relevant du privé, pour eux, ben, ne l'est pas, en fait. C'est en ça que les frontières bougent, mais ils les réinstaurent, puisqu'ils instaurent une troisième dimension. Nous, on était entre public-privé, et eux, ils instaurent une dimension, la dimension de l'intime, mais de l'intime signifié publiquement aux autres. Alors, du coup, ils sont, en fait, pris dans un système. Et ce terme de « pris », je l'ai mis entre guillemets parce que vous allez voir aussi, grâce à ce que Morgan en dit, parce qu'en fait, on est vraiment dans ce que Sartre en fait montrait quand il disait que les individus étaient pris dans leur société. De fait, on est tous pris dans un système d'injonctions, de valeurs, de modèles dominants d'une société quelle qu'elle soit, et on fait avec. Alors évidemment, on peut faire avec en luttant contre, hein, mais on est forcément pris dedans. Puisque sinon, on n'est pas des êtres sociaux. Or, c'est quand même notre caractéristique première. Et du coup, ils ont un petit peu de mal à être un peu clairs, finalement, sur la question. Là, vous allez entendre Morgan, à 17 ans, qui essaye de m'expliquer ce qu'il pense du fait que les chefs d'entreprise vont fouiller les profils et les traces des individus, parce qu'il a 17 ans, et il sait que le monde du travail approche, et à l'école, on n'arrête pas de lui en parler. Et donc, du coup, il a évidemment, parce que Morgan, il a son avis sur tout en plus, et là, il a évidemment son avis à donner. Alors, il faut suivre le raisonnement, je vous préviens. Morgan, il est volubile.
Des patrons d'entreprise, des machins, ils vont te faire les tests. Et du coup, ils vont regarder ton Facebook pour voir si t'as le profil. Donc, du coup, tu orientes ton Facebook en fonction des professions que tu veux faire. Encore une fois, de la vitrine. Ça, pour moi, c'est du racolage, c'est de la prostitution. Il faudrait interdire ça. Il faudrait dire au patron d'entreprise, non, vous n'avez pas regardé le Facebook. Vous avez pas. C'est très délicat parce que, d'une autre part, ils ont raison de le faire. C'est la sphère publique. Donc, c'est extrêmement délicat. Ils ont le droit de le faire. Ils peuvent le faire. Pour certains cas, ils doivent le faire. Et d'un autre côté, je me dis, mais c'est triste, parce que du coup, ça oriente des gens à faire des faux Facebook, et voilà, bref, c'est ça, c'est le... Mais c'est pas la faute à Facebook, hein.
Oui, non.
C'est pas la faute au... Encore une fois, j'ai rien contre le support.
On est responsable de ce qu'on en fait.
Exactement. Mmh. Encore une fois, j'ai rien contre le support. Moi, les gens qui... Les débats pour ou contre Twitter, pour ou contre Facebook, je dis, bah, pour ou contre les estrades dans les villes. T'as des villes, hein, qui ont gardé leur scène de théâtre libre. Mmh. Bah, si demain j'ai envie de me foutre à poil là-dessus pour faire ma performance artistique, ok, ce sera immonde et tout, mais c'est pas de la faute à la scène. Pour ou contre la scène, c'est ridicule ce débat-là. Ah, voilà, c'est comme ça que je vois les choses.
Oui, les raisonnements peuvent parfois un peu surprendre, c'est pour ça que c'est important de les laisser parler. Il fait le lien en fait entre s'exhiber nu dans la rue et être sur les réseaux. Et en même temps, vous voyez, assez délicat comme il dit, hein, c'est-à-dire ce côté, bah, on devrait pas aller vérifier les données. En même temps, c'est normal qu'on le fasse, mais on ne devrait pas. Hein. Et effectivement, le fait de dire, bah, du coup, comme on sait qu'on va vérifier les données, on triche sur les données. Donc, de toute façon, ce n'est pas vraiment nous qu'on voit en ligne. Donc, c'est vrai qu'en même temps, ils sont pris dans un système qui les oblige tout le temps à jongler entre les différentes sphères qui vont regarder ou avoir un droit de regard plus ou moins opportun sur leurs données. En réalité, ce qu'on voit aussi dans le temps, c'est qu'ils ont un rapport très évolutif à leurs données et un rapport plutôt prudent en réalité aux données personnelles, contrairement à ce qu'on dit beaucoup. Alors, les plus jeunes, en fait, ils disent qu'ils font rien de méchant, donc ils voient pas trop en quoi c'est problématique, hein, avec des mots encore un peu fragiles sur la question « je fais rien de mal, je fais attention ». Mais voilà, les plus jeunes sont toujours un peu, ils n'ont pas vraiment conscience du système en tant que tel, et donc ils sont plutôt dans le, ben moi j'ai pas fait de faute, parce qu'ils n'arrivent pas en trop hein, à évaluer la, finalement la masse dans laquelle ils sont inclus. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller, de les suivre et de les voir sur le plus long terme et de les faire revenir sur leurs expériences passées. Vous allez entendre là Julie qui s'exprime. À ce moment-là, elle a 19 ans, donc là, elle est étudiante. Elle vient d'entrer en... Enfin, ça fait un an qu'elle est en licence administration économique et sociale. Et ben là, vous allez voir aussi l'intérêt de l'entretien long, c'est que Julie, d'elle-même, d'un coup, va nous parler de son rapport à la publication et aux traces quand elle était jeune, comme elle dit. Et donc, juste pour vous expliquer, parce que la coupe est pas très bonne, je me suis un peu loupée sur la coupe. Au départ, en fait, elle me fait en fait juste remarquer que il y a jamais sa tête en photo, qu'on voit toujours qu'un profil, donc on voit jamais son visage en photo sur les réseaux sociaux. Vous comprendrez après pourquoi.
On voit pas les visages.
Ouais, voilà, comme ça, j'ai super mon téléphone. Et un truc que je fais souvent, ça c'est vrai, que ce soit sur mon ordinateur ou mon portable. Régulièrement mes photos, tous les historiques et tout, je me dis si un jour je le perds, au moins ben, on peut rien trouver. Même sur Facebook, mes conversations, je les supprime au fur et à mesure pour qu'il reste rien.
Parce que tu veux pas qu'on conserve tes données ?
Bah, je sais qu'elles sont quand même gardées plus ou moins, mais par exemple si un jour je me fais pirater, au moins je me dis bah, on trouvera rien sur moi en fait.
Et alors pourquoi c'est si important qu'on trouve rien sur toi ?
Bah, c'est ma vie privée, je me sentirais je sais, pas nue mais attaquée, enfin je sais pas, j'ai pas envie en fait que les gens qui me connaissent pas... puisse rentrer dans ma vie en fait. Je préfère garder les choses pour moi, puis les gens qui m'entourent.
Donc ça veut dire que tu laisses, mais tu laisses quand même des traces forcément, puisque
ah oui, il y en a. Mais par exemple, les conversations, c'est vrai que par exemple, bah, on peut se livrer quand je parle avec des amis ou de la famille, et du coup on se confie plus. Une photo, bon bah de toute façon tout le monde m'a déjà vu, donc même si on a ma photo, il y a rien. Je veux dire, je suis toujours bien cachée, je veux dire, donc c'est pas très grave. Mais les conversations, c'est vrai que je préfère quand même garder pour moi.
Et ça te vient d'où ce réflexe-là ? On t'a dit que les conversations étaient gardées ? Enfin...
Ouais, ça je le sais, on en avait déjà discuté, bah, même à l'école, ils nous disaient tout est gardé, et puis je me renseigne beaucoup aussi sur tous ces trucs-là.
Tu te renseignes comment ?
Bah, sur Internet, sur Facebook, je retrouve sur des articles, des trucs comme ça en fait.
Et pourquoi tu te renseignes sur ça ?
Parce que je me méfie de tout. J'ai pas très confiance, ouais, tout ce qui est informatique et tout, donc... Non, c'est vraiment, plus j'étais assez réticente là-dessus, je fais attention.
Ouais, donc tu utilises, mais du coup, avec prudence.
Je reste prudente.
D'accord. Donc pas d'archives dans le téléphone.
Non.
Enfin, sur Internet, en fait, c'est même pas dans le téléphone.
Non. Même j'avais un blog que je gardais quand j'étais plus jeune, en fait, je l'ai eu au moins pendant 7-8 ans. Et il y avait encore toutes mes photos de plus jeune, en fait. Et là, j'ai tout enlevé, j'en ai mis une récente, mais on voit que la moitié de mon visage. Que je suis cachée, en fait, et on voit pas. Et
alors, ça veut dire que c'est que au tout début, quand t'étais.
J'exposais
jeune,
pas ma vie,
on va dire.
Oui, plus jeune, ouais.
Ça fait bizarre de dire ça à toi, mais... T'exposais fort ta vie ? T'as cette sensation-là quand tu dis ça ?
Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être dangereux. Rien que par rapport, en fait, quand je suis arrivée à la fac, je sais que j'ai rencontré des personnes, et ils se sont amusés, par exemple, à regarder tout mon mur Facebook depuis la création de mon compte, en fait. Et du coup, ils m'ont dit « Ah, je savais pas que t'avais fait ça !» Enfin, pour se moquer en rigolant ou des petits commentaires, et du coup, je me suis dit « Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs que je devrais peut-être pas forcément garder, en fait. C'est peut-être pas à mon avantage, ou... Je marquais tout, hein. Aujourd'hui je cherchais du pain, enfin des trucs pourris quoi.
Et c'est des choses dont t'avais pas conscience avant ?
Non. Non, non.
C'est un peu l'expérience qui a fait que tu t'es dit bon.
Bon, puis après quand on grandit, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est plus la même utilisation. Enfin avant j'étais tout le temps là, je regardais tous les murs de tout le monde, je marquais ma vie et puis maintenant bah.
Alors c'est très intéressant ce qu'elle dit parce que en fait on l'observe hein, à travers tous ceux que moi je suis sur le long terme. Ce qu'on observe c'est un détachement. Des réseaux sociaux et de l'engagement temporel et affectif dans les réseaux sociaux au fur et à mesure du temps. Tout simplement parce que, alors il y en a qui me parlent de glace qu'ils ont trop mangé, en me disant, c'était Clémence qui m'avait dit un jour, ben, quand tu manges trop de glace, du même parfum, au bout d'un moment, t'en as marre de ta glace et de ton parfum, quoi. Et j'avais trouvé la comparaison assez rigolote parce qu'elle parlait d'une forme d'indigestion. Et du coup, elle avait l'air de dire que ben ça expliquait aussi le fait que ben voilà, elle avait un peu fait le tour de certaines choses sur les réseaux sociaux et donc elle allait voir ailleurs et expérimenter d'autres choses. Ce qu'on voit à travers ce que Julie raconte, hein, c'est un besoin à un âge qui se comprend parce qu'elle explique bien aussi le rapport encore une fois aux autres. Et puis là, bon ben voilà, on n'a plus besoin parce qu'on a grandi tout simplement. On voit aussi que ben à l'école, on lui a dit bon. Elle fait appel au discours qu'elle a entendu à l'école, mais on voit bien que c'est l'expérience qui fait qu'en fait, elle va modifier son rapport à ses données personnelles. En fait, la protection des données personnelles, c'est finalement une démarche socialisatrice. C'est-à-dire que c'est une démarche qui va être faite parce que, en général, il y a un rapport aussi à un changement de statut ou un groupe dans lequel on veut s'intégrer et qui promeut d'autres comportements. Exemple, celui d'Anaïs, là, dont vous voyez le téléphone. Alors, c'est très important, en fait, ce téléphone. Vous, ça vous parle pas, mais j'ai pas fait un avant-après, je peux pas, parce que vous verriez rien sur le téléphone. En fait, avant, quand elle était au lycée, Anaïs, sur son écran d'accueil de téléphone, en fait, on avait des photos personnelles. D'accord ? Souvent, c'était la photo de son neveu, ou c'était la photo du petit ami du moment, ou c'était voilà. Et puis, quand je la revois en octobre, après, une fois qu'elle est entrée à l'IRTS, donc à l'école de travailleurs sociaux, pour être assistante sociale, je vois son téléphone et je lui dis tiens, c'est marrant, il y a des petites fleurs maintenant sur ton téléphone, c'est mignon, c'est un peu impersonnel. Et elle m'explique bah oui, attends, là je suis rentrée dans le monde du travail. Je vais devenir une professionnelle. Et elle explique que les formateurs en IRTS, ils n'ont pas non plus des données personnelles comme ça sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Et donc que c'est aussi une pratique, elle fait preuve de professionnalisme et de capacité à devenir une professionnelle en ne diffusant plus facilement cette donnée-là. Alors, elle a parfaitement conscience hein, que son téléphone, notamment en stage dans les centres sociaux où elle fait hein, ses stages en tant qu'assistante sociale, son téléphone est vu par les autres hein, et que du coup, elle expose des données personnelles à cette occasion. La socialisation militante peut aussi et va aussi parfois jouer un rôle. Vous avez entendu Julie, très prudente, mais qui aussi racontait qu'elle allait chercher du pain quand elle avait 12 ans sur les réseaux sociaux. Eh bien, Julie, en fait, elle est militante antifa. Donc, c'est-à-dire qu'elle appartient aux ligues antifascistes. Et à ce titre, c'est pour ça que Julie est aussi extrêmement prudente sur les réseaux, parce que Julie, elle sait comment fonctionnent les communautés qui luttent contre les ligues antifascistes, autrement dit, tout ce qui relève du bloc identitaire. Et Julie, en fait, par le groupe militant auquel elle appartient, développe des stratégies de protection de ces données. Et l'écran à droite que vous voyez, en fait, c'est que pour accéder à l'ordinateur de Julie et à chaque plateforme ou logiciel sur lequel elle a un compte, il faut régénérer un nouveau mot de passe qu'elle régénère à partir de son téléphone portable. Et ça vient des ligues Antifa qui invitent à la protection complète des données personnelles de la communauté Antifa de façon à ce que les rendez-vous ne soient évidemment pas connus, notamment des ennemis politiques. Voilà. Alors, concrètement, orchestrons ces données pour conclure. Disons que je suis pile dans les temps. Je me félicite moi-même, je te regarde en même temps pour vérifier que je suis bien dans les temps. Donc voilà. Alors, orchestrons les données ensemble, c'est peut-être ça aussi la solution. Vous voyez bien qu'il y a quand même des absents par moment dans ce qu'ils racontent. On a l'impression qu'ils font leurs expériences un petit peu seuls, parfois. Et puis ils se débrouillent quelque part. Hein. L'expression de tacticien est d'autant plus visible ici. Ils se débrouillent comme ils peuvent et au fil du temps trouvent des stratégies qui leur correspondent, mais qui sont parfois longues hein, à trouver. Et tous, évidemment, ne trouvent pas les stratégies qui leur correspondent quand même. Ce qu'on observe parmi certains, alors là je ne vais pas vous mentir et je ne vais pas vous dire que c'est la majorité de ceux que j'ai rencontrés, mais il me semble important de parler d'eux parce qu'ils existent aussi et qui sont pas non plus que 5 dans l'échantillon, donc c'est plutôt voilà. Mais ce qu'on voit, c'est aussi une contre-culture en acte, c'est-à-dire une volonté d'entrer dans des régulations, dans des actions de régulation collective du web, notamment par exemple l'un des jeunes interrogés, plusieurs d'ailleurs, mais un que j'ai gardé parmi les 15, est ce qu'on appelle un revengeful angel. Donc, si vous connaissez pas les Revengeful Angels, c'est un groupe très peu identifié, hein, et donc du coup c'est vraiment une appellation qui regroupe en fait des gens avec des statuts et des façons de fonctionner extrêmement différentes. Donc faites attention à ce que vous trouvez sur le web sur ça, parce qu'on peut aussi trouver des choses qui donnent pas du tout envie en fait de côtoyer un Revengeful Angel. Ça dépend vraiment de ce que c'est. Un Revengeful Angel, le principe général, c'est que c'est quelqu'un qui va aller au nom d'une régulation collective des réseaux, aller s'adresser à d'autres sur les réseaux sociaux notamment pour réguler les publications. Par exemple, là, dans les jeunes rencontrés, il y avait Reynald, que donc je continue de suivre, et qui disait on est responsable collectivement de ce qu'on fait d'Internet. Et lui, en fait, il faisait partie d'un groupe, hein, c'est un peu un fonctionnement un peu Anonymous, en fait, hein, et il faisait partie d'un groupe qui allait chercher des publications problématiques, enfin des comptes d'enfants, de jeunes sur les réseaux sociaux et sur Facebook en l'occurrence, et qui s'adressait aux jeunes qui avaient publié des photos qui pouvaient poser problème en termes de respect de leur vie privée ou de leur image ou de récupération de leur image. Et donc c'est une façon finalement de faire une éducation aux données, à la gestion de ces données personnelles entre quelqu'un qui a 17 ans et quelqu'un qui a 12 ou 13 ans. Hein. C'est un fonctionnement qui est quand même assez intéressant, et notamment avec évidemment l'intention politique, hein, qu'il y a derrière, et la conscience d'une chose qui nous appartient à tous et dont on est finalement aussi dépositaire, et cette chose étant évidemment la vie numérique et l'Internet. Cette régulation horizontale, on la voit aussi à travers l'engagement par les communs, c'est-à-dire par des jeunes qui vont promouvoir, à l'instar de Flavien, que je suis aussi toujours depuis 2012, et là, en seconde, à 16 ans, il disait « Moi, je suis un open office for life ». Il n'arrêtait pas de le répéter parce qu'il n'arrêtait pas de râler, parce qu'on utilisait Google Doc, parce qu'il y avait Word au CDI, etc. Et il me disait, il n'arrêtait pas de dire ça. Et il expliquait à quel point pour lui c'était important. Et il faisait une comparaison entre le choix d'utiliser que des logiciels libres et d'avoir d'être en opposition en fait avec les licences payantes, et le choix de l'agriculture biologique en disant c'est sain pour la société. Ça, ce qui est intéressant derrière ce discours-là, c'est l'idée d'un engagement politique en fait, à travers les réseaux, parce que c'est un engagement politique qui est dessiné à travers ce choix-là. On voit aussi une circulation sociale de l'expertise qui émerge. Et donc là, on voit du coup que les adultes ne sont pas non plus complètement absents, je vous rassure, de ces régulations. Et Léa, par exemple, disait que ce qui était bien, c'est qu'elle pouvait parler avec ses parents de ce qu'elle faisait sur les réseaux. Et elle pouvait leur demander un peu ce qui se passait, quoi. Donc elle essaye de comprendre pourquoi elle a eu telle ou telle information. Et Léa, elle est très très perturbée en fait, parce que elle me raconte qu'elle est fan de Enjoy Phoenix, donc une youtubeuse qui fait des tutos make-up, qui raconte sa vie, qui fait des voyages et qui fait beaucoup d'argent aussi grâce à ça. Et Léa, en fait, elle se rend compte que à force de suivre Enjoy Phoenix partout, on lui conseille aussi plein de produits qui ont un rapport. Bah oui, mais Léa, elle a 12 ans, ma petite dame, elle sait pas, Léa, vous êtes marrante, vous. Donc oui, bien sûr, mais Léa, en fait, ça, elle comprend pas bien, et elle, donc elle m'interroge, et puis du coup, elle me dit, non, parce que j'ai demandé à mes parents, puis elle commence à me dire que sa mère était quand même pas très très claire non plus dans l'explication, mais ce qui est intéressant, hein, à travers ça, c'est qu'on voit bien que il y a quelque chose d'essentiel, c'est évidemment la possibilité d'en discuter avec les parents, et les objets connectés sont des éléments qui permettent, hein, de véritables sociabilités au sein de la famille, des vrais échanges autour de l'information, des médias et de ce qui s'y passe à travers ces objets. On voit aussi des processus de socialisation qui s'opèrent, de rétro-socialisation, pardon, qui s'opèrent, c'est-à-dire ben, des jeunes qui, à l'inverse, vont expliquer à leurs parents. Alors, on avait le cas d'Anaïs, par exemple, qui raconte comment elle a expliqué à sa mère que fallait pas relayer n'importe quoi sur Facebook. Et elle raconte très agacée, non, parce que ma mère, tu devrais voir, elle vérifie pas les sources, elle fait n'importe quoi. Et donc, elle explique à sa mère comment publier sur Facebook. Donc, on voit aussi des phénomènes inverses, hein, qui peuvent se passer en fonction de leur âge. Finalement, on a une sorte de combo gagnant, on pourrait dire, dans ce qu'ils font, entre le système de recommandation et le design. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a tendance à se dire, mais enfin, tous ces éléments qui les tracent, qui les filtrent, qui les contrôlent et qui les orientent sont dangereux. Sauf, alors c'est vrai, quelque part, sauf qu'en réalité, ce sont aussi des leviers pour l'exploration informationnelle. C'est-à-dire, très concrètement, que parce que YouTube, ils sont sur YouTube et qu'il y a des recommandations liées au sujet qu'ils ont regardé, ils vont aller voir d'autres choses qui vont les conduire à d'autres documentaires, etc. Et donc, du coup, il y a des découvertes qui sont faites aussi grâce au système de recommandation, grâce au traçage. Ce qui pose bien la problématique d'Anaïs tout à l'heure, qu'avec la fin, l'accès à l'information qui justifie les moyens, le traçage. Et on le retrouve aussi ici avec Discover, qui est donc, si vous ne connaissez pas, un portail de titres de presse gratuit, entre guillemets, qui en fait est développé par l'application, par le réseau social Snapchat. D'accord ? Donc sur leur téléphone, plein de jeunes et d'adolescents ont Discover de Snapchat, c'est-à-dire très concrètement qu'ils lisent la presse via Snapchat. Et je parle bien de presse, d'articles de presse. Hein, ça va du Monde au Cosmopolitan, en passant par Vice, en passant par Combini. Enfin, vous avez. D'un système qu'elle connaît bien, qui est celui de Snapchat. Le problème, par contre, merci Raphaël, le problème, par contre, c'est que Anaïs, elle comprend absolument pas comment, pourquoi tel titre arrive, et ça arrive un peu par hasard. Hein. Alors, du coup, évidemment, ça pose des questions. Alors, pour conclure, des pistes. Des pistes pour l'action qui vont être, je pense, assez évidentes, mais qu'il faut quand même dire. C'est qu'on voit bien à travers ça combien l'action sur les réseaux sociaux, l'activité pardon sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, c'est une activité profondément culturelle. Dès lors, c'est pas non uniquement et surtout même j'aurais tendance à dire c'est pas du tout une éducation au code informatique dont on a besoin, mais une éducation culturelle au réseau. Comprendre comment ça fonctionne, c'est permettre un rapport démythifié à cette technique. Vous avez bien vu qu'ils voient bien qu'il se passe des trucs bizarres, mais ils ne savent pas trop expliquer comment, pourquoi, et ils cherchent à contourner. Et garder le pouvoir, c'est évidemment savoir comment ça fonctionne. Ça nécessite de développer une culture de la traçabilité et d'entrer aussi dans la compréhension des phénomènes qui justifient, en tout cas expliquent, ce régime de séduction. Vous avez par exemple, alors avec plein de critiques possibles, mais enfin je vais éviter d'en faire trop parce que j'y ai participé, mais une série qui a été produite par Arte France et puis par le réseau Canopé, qui s'appelle Dopamine, et qui montre en fait comment les réseaux sociaux comment les industriels qui ont créé les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ne sont pas tombés comme ça, c'est des êtres humains qui les ont créés, comment les industriels se sont appuyés en fait sur les ressorts du cerveau et notamment la dopamine qui sécrète en fait du coup le circuit qui est sécrété pardon à chaque fois que le circuit de la récompense est sollicité et du coup vous êtes dans un cercle vicieux qui fait que vous avez tout le temps envie de vous connecter, que vous avez du plaisir quand vous recevez un like et du coup vous relikez et du coup ça, et voilà, c'est un cercle sans fin. Et ça, c'est important, en fait, que ces jeunes, ces adolescents, on leur explique ça, parce que ça leur montre aussi qu'ils sont pas stupides, qu'ils sont pas décérébrés, mais que c'est justement parce qu'ils ont un cerveau, et que leur cerveau fonctionne de telle manière, qu'en réalité, leurs activités numériques sont aussi intenses, et combien aussi, nous vivons, nous aussi, adultes, cette difficulté à sortir des réseaux et à sortir du fonctionnement. Gilbert Simondon, qui était un philosophe de la technique dans les années 50, il parlait d'âge de la majorité. Il faisait la comparaison avec... alors c'était Kant, en fait, qui parlait de ça pour l'écriture et la lecture, et qui disait, au 18e, qu'au 18e, les individus avaient atteint l'âge de la majorité dans la société parce qu'ils avaient eu le pouvoir de lire. Et en fait, Kant, Gilbert Simondon, dans les années 50, dit « La technique nécessite... » Enfin, met les individus en situation de minorité. Et elle nécessite d'être comprise de l'autre côté, entre guillemets, pour que les individus soient majeurs vis-à-vis de cette technique et puissent agir. Mais en fait, on a aujourd'hui exactement le même phénomène qui se pose, avec une culture aussi de la source qui est nécessaire, et comprendre, avoir conscience des pratiques qui sont mises en jeu, c'est aussi le faire en famille, c'est aussi le faire avec eux. Et vous avez par exemple un guide, hein, et une série d'ailleurs télévisée qui en est tirée, qui s'appelle La famille tout écran, et qui permet par exemple de faire aussi des quiz avec les grands-parents, avec les parents, et entre jeunes, et en fonction de nos âges et des moments de la journée, et de voir aussi quel est le rapport au numérique, et évidemment d'en discuter. C'est aussi une éducation politique au réseau, me semble-t-il, qu'il faut promouvoir quand on parle de traces et d'algorithmes. C'est bien beau de se plaindre que le monde fonctionne ainsi, mais après tout, on peut peut-être décider qu'il fonctionne autrement, hein, surtout en ce moment. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, alors là, c'est plutôt du coup un exemple venant de la chercheuse qui va cette fois dans les classes. Moi, ce que j'observe aussi, c'est des enseignants et des exemples pédagogiques s'appuyant sur des plateformes recourant à l'exploitation des données personnelles, et ce, sans forcément de recul critique vis-à-vis de ça. En 2016, lorsque Pokémon Go sort, en juillet 2016, on a une batterie d'exemples pédagogiques sur les sites académiques de formation au numérique pour les enseignants qui sont mis en place avec l'idée de « on va s'appuyer sur Pokémon Go pour former nos élèves à l'espace, aux maths, etc. » Super, c'est bien, on vend leurs données, tranquille. On leur donne un blanc-seing total sur la géolocalisation, etc., sans aucun recul critique. Et ça, ça interroge notre rôle en tant qu'éducateur. De la même manière, lorsqu'on réalise avec eux des booktubes, grande mode, hein, leur donner envie de lire et les rendre créatifs, c'est aujourd'hui créer des booktubes, c'est-à-dire concrètement que vous faites ce que font des booktubeurs, c'est-à-dire des gens qui sont sur YouTube, et qui sur YouTube, en gros, résument un livre en donnant l'envie de lire le livre, en se filmant, et le tout, évidemment, est diffusé sur YouTube. Sur YouTube. Et après, on va leur dire qu'ils sont irresponsables parce qu'ils se filment, qu'ils sont irresponsables parce qu'ils mettent leurs données sur des plateformes qui récupèrent allègrement les données personnelles, etc. Ça pose question que des éducateurs le fassent, sans d'ailleurs, la plupart du temps, les autorisations de captation et de diffusion d'images données aux élèves et, je le répète surtout, aux représentants légaux de ces jeunes. Et puis le dernier en date, alors là, le pompon final pour moi en tout cas, c'est que Bookflix. Alors, je vous explique. Il y a des gens qui se marrent dans la salle parce qu'ils savent que c'est le combat du moment, mais oui, j'irai jusqu'au bout, il faut que ça s'arrête. Vous connaissez tous Netflix. Vous savez, cette plateforme, une parmi tant d'autres d'ailleurs maintenant, qui vous permet d'avoir des vidéos, des films, des séries, etc. Vous avez en fait là la présentation, si vous connaissez Netflix, c'est exactement la même présentation que Netflix. Un libraire américain a une idée extraordinaire qui a été de mettre un grand drap noir sur sa vitrine, de coller des livres dessus, et de mettre exactement le même système que dans Netflix, donc recommandé, nouveauté, machin, avec des thématiques, et puis de mettre dessus Bookflix. Le monde entier, des professionnels du livre, de l'information et des médias, c'est-à-dire tous les gens qui parlent d'éducation à l'information, aux médias, aux données, à la liberté personnelle, individuelle et collective, et tout ça, et tout ça, tous ces gens-là ont trouvé ça trop super. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et hop, on a fait des Bookflix, en veux-tu, en voilà, avec nos élèves. Concrètement, alors d'abord, on va être très clair, c'est moche, point de vue purement esthétique. On peut faire autre chose que faire un machin noir, c'est un moche absolu. Autre chose, concrètement, on a toujours fait ça. J'ai des professeurs documentalistes dans une vie antérieure pas si lointaine, et dans cette vie-là, eh ben ouais, je mettais en avant les nouveautés, les recommandés, les trucs par thématique, sauf que je ne mettais pas Bookflix, je mettais une thématique ou je mettais un truc genre rendez-vous au CDI, vive la lecture, bref. C'était peut-être ringard, mais au moins, je diffusais pas un modèle culturel qui repose sur le technocapitalisme, sur la surveillance des données, sur les ventes des produits culturels et sur la concurrence des marchés. Excusez-moi, mais dans l'école de la République, et dans toutes les institutions culturelles relevant quand même de cette vision normalement d'une culture publique, etc., ça me perturbe. Et ça me perturbe parce que Dominique Cardon le dit bien, les algorithmes, ils dessinent des mondes, nous dit ce sociologue, mais si on les fait fonctionner autrement, ils peuvent aussi dessiner d'autres mondes. Sauf qu'évidemment, si nous, on habitue nos élèves à faire avec, à même pas s'interroger sur le pourquoi on fait avec, et voire pire, à entrer dans l'imaginaire collectif que bah, la référence culturelle quand même, c'est Netflix, eh ben, faut pas s'étonner après. Je vous laisse faire la conclusion. Faut pas s'étonner. En tout cas, les choix d'éducation par le numérique et au numérique sont éminemment, fondamentalement des choix politiques, des choix de vision du monde et du rapport aux autres. Quel modèle de société on veut construire ensemble, c'est vraiment des questions qui sont essentielles à se poser. Et ça, ça ne se pose pas qu'à l'école. Ça se pose à travers toutes les instances de médiation et d'éducation. La famille est donc aussi une instance d'éducation. Et évidemment, ça passe par les outils déjà qu'on utilise et qu'on va promouvoir. Alors là, je vous ai évidemment mis le réseau d'éducation populaire Framasoft. Hein, vous connaissez peut-être LibreOffice, Mozilla Firefox, et là je peux le dire puisque de toute façon, on n'est pas sur... c'est du libre. Hein. C'est des outils qu'en fait vous utilisez, Audacity, VLC, etc. On est sur des outils qui sont libres et qui du coup reposent sur un mode collaboratif. Vous avez des associations comme April ou encore la Quadrature du Net qui défendent une société libérée de la surveillance et en tout cas émancipée des cadres qui nous sont aujourd'hui proposés. Et puis je me suis dit, mais finalement, et si on proposait d'autres figures aussi à nos jeunes, d'autres figures de héros modernes, contemporains. J'ai fait un test avec mes étudiants, je vais le faire avec vous si vous êtes d'accord pour la conclusion. Est-ce que... Alors vous allez très honnêtement lever la main, et alors il y en a certains, ils vont se sentir gênés parce qu'elles vont se dire « moi je suis obligée de lever la main parce que je suis forcément au courant ». Mais bon, vous allez très honnêtement répondre. Qui sait qui est Mark Zuckerberg? Ok, merci. Steve Jobs? Ok, merci. Bill Gates? Merci. Jeff Bezos? Ça commence à... Et si je vous dis... Aaron Schwartz. Et voilà. Ouais, mais là, c'est parce que toi, t'es pas obligé. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ce jeu-là? Parce que les trois premiers, c'est les industriels des GAFAM. C'est ceux qui dominent aujourd'hui notre monde économique et notre monde politique. Le quatrième, c'est le fondateur de Wikipédia. De Wikipédia, encyclopédie collaborative, autre rapport à la connaissance, autre rapport au monde, autre rapport à l'autre. Toi aussi, tu peux m'apporter autant que moi, je peux t'apporter. Et on va ensemble développer une expertise. Et le cinquième, c'est Aaron Schwartz. Aaron Schwartz, né en 1986, décédé en 2013, suicidé. Il s'est suicidé. Parce que Aaron Schwartz, c'est un des porteurs de la culture libre dans le monde, qui a écrit notamment, mais tellement d'autres choses, mais notamment le manifeste pour la libération de l'information. Et on est là face à une figure de la résistance de ce monde moderne, de quelqu'un qui s'est battu et qui est mort pour ses idées, littéralement. Et ça, il me semble que c'est une figure emblématique qui ne peut que toucher des adolescents et des adolescentes aujourd'hui qui s'interrogent profondément sur le rapport au monde qu'on leur propose et sur le rapport à la société. Mais c'est aussi à nous de savoir promouvoir autre chose que des types qui s'en mettent plein les poches et qui ont le culot de dire qu'ils font ça pour votre bien. Voilà. Donc pour conclure, une éducation joyeuse à ces réseaux, parce qu'on voit bien que ben accéder à l'information, la manipuler et puis communiquer, mettre en partage, c'est une chance, que tout ça a du sens, que tout ça aussi permet d'avoir du plaisir dans la vie entre les uns et les autres, que ce soit entre les jeunes, mais que ce soit aussi dans le monde éducatif, parce qu'on est sur des enjeux forts aussi au sein de la famille, dans les interactions, et puis que tout ça... Fondamentalement, ça développe aussi une culture partagée, commune et une culture émancipatrice. Je vous remercie et on conclut avec Condorcet, forcément.